Ouvrez vos Bibles dans le livre des psaumes. On va prendre le psaume 13. Avant de prêcher la parole, j'avais une petite promo. Votre pasteur pense à vous. Vous achetez des livres cette semaine. Un paquet de livres. Plein de petits livres de R.C. Sproul. On l'aime beaucoup, R.C. Question cruciale. C'est plein de questions cruciales. Comment puis-je vivre par la foi? Vivons-nous les derniers jours? Qu'est-ce que le grand mandat? Comment puis-je être béni? Qu'est-ce que la Sainte Cène? Qui est le Saint-Esprit? Que dois-je penser de l'argent? Que signifie naître de nouveau? Il y en a. La prière peut-elle changer les choses? Comment puis-je être juste devant Dieu? Que puis-je faire de ma culpabilité? Qu'est-ce que la sagesse biblique? Que signifient les paraboles de Jésus? Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la Trinité? Que pouvons-nous savoir au sujet de Dieu? Qu'est-ce que l'Église? Pourquoi devrais-je me joindre à une Église? Qu'est-ce que la prédestination? Dieu contrôle-t-il toutes choses? La joie peut-elle faire partie de ma vie? Puis-je perdre mon salut? Dieu existe-t-il? Les gens sont-ils fondamentalement bons? Que pouvons-nous savoir au sujet de Dieu? Voilà, je l'ai déjà dit, celui-là. Je les ai toutes achetées! 5 copies de chaque, puis quand il n'y en aura plus, on en rachètera d'autres. Ce sont de bons petits ouvrages, une 60aine de pages, 5 piastres chaque. C'est peu cher pour bénir vos âmes, donc. Mais là, ne vous ruez pas à la fin du culte pour aller les acheter à la bibliothèque. Odette n'est pas prête, elle ne les a pas encore inventoriées. Ça va aller à la semaine prochaine, c'est votre cadeau de Pâques. Vous vous achèterez des copies pour en posséder toutes. Là. Voyons, mon petit affaire. Ah, c'est ça. OK. Psaume 13. Au chef des chantres, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole sainte, ta parole vivante par laquelle tu parles à ton Église. Tu te révèles à nous, Seigneur. Merci pour les saintes Écritures au travers desquelles tu nous donnes la consolation par l'Esprit Saint qui nous convainc de la vérité. Seigneur, nous te demandons de nous aider à être attentifs à ta parole. On donne notre attention, Seigneur, à toutes sortes de futilités, à des vidéos, à des films, à des discours, à des nouvelles. Et nous voulons donner toute notre attention à la parole de Dieu, du Dieu vivant. Aide-nous, Seigneur, parce que notre ennemi ne veut pas qu'on l'écoute. Parce que, Seigneur, notre chair se laisse facilement distraire. On s'égare dans nos propres pensées, qui divague, mais ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ ce matin. Seigneur, je m'attends à toi pour que tu puisses me venir en aide en m'accordant l'onction de ton Saint-Esprit pour prêcher avec clarté, avec conviction, avec foi, la vérité de ta parole. Et je te demande que tu nous aides chacun à l'accueillir humblement, avec douceur dans nos cœurs. Je te demande que tu puisses visiter chaque personne ici présente et tous ceux qui l'entendront par la suite, on te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Voici le plan d'exposition pour ces 6 versets. David commence avec la souffrance qu'il exprime, mais dans laquelle aussi on discerne son espérance. Il enchaîne avec la prière dans laquelle il persévère, pour culminer avec l'expression de sa joie et de la louange. Vous savez que la vie chrétienne est facile. La vie en général est facile, pas beaucoup de souffrance dans l'existence. Bien sûr, je suis un peu ironique. Il y en a qui l'ont plus facile que d'autres, mais il n'y a personne qui évite complètement la souffrance ici-bas. Et si vous pensiez qu'en devenant chrétien, vos souffrances allaient diminuer, bien, c'est une erreur. Jésus dit qu'en le suivant, ça vient avec une croix. Puis bien, par nature, la croix est là pour faire mal, pour mortifier, pour mettre à mort. Il y a des souffrances qui viennent pour le croyant aussi parce qu'il va rencontrer beaucoup d'opposition. Et c'est vraiment le thème de cette collection de psaumes, de cette famille, des psaumes 10 à 14. On est dans une section qui nous parle des méchants dans le monde, qui nous parle de l'opposition que l'enfant de Dieu rencontre contre sa foi, qui s'oppose à lui. Et à la longue, ça use. On peut commencer la vie chrétienne avec une grande confiance, avec de l'enthousiasme, avec la certitude que Jésus revient bientôt. Et puis, en avançant, des fois, on se décourage, on se fatigue, on tombe dans le péché, on est découragé de nous-mêmes. Jésus ne revient pas, même s'il revient bientôt, mais on se dit, est-ce qu'il va revenir avant ma mort? Et il y a plein de choses qui nous amènent parfois à désespérer. Et on voit un peu ce cycle vers un plus grand découragement à mesure qu'on avance dans cette famille des psaumes. On a commencé au psaume 10 avec David qui exprime qu'il est dans un monde de méchants, mais qui a confiance. Mais à mesure qu'on avance dans ces psaumes, on dirait qu'il dépérit. C'est ce qu'a remarqué aussi John Golden Gay dans son commentaire. Il écrit « Confronté aux méchants et à leurs attaques, le psaume 11 manifeste une confiance sereine et le psaume 12, une lutte pour la confiance en la parole de Yahweh. Le psaume 13, quant à lui, naît d'un profond sentiment d'abandon, même s'il s'achève dans la confiance. » Alors, c'est ce qu'on a vu, ça s'achève avec « Moi, j'ai confiance en ta bonté », et on va d'ailleurs le chanter tout de suite après ce message, mais ça commence pas mal déprimé. David répète quatre fois « jusqu'à quand ». On regarde là, si on aligne là, la prochaine diapo, les quatre questions qu'il pose dans les versets 2 et 3. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? » Or, David est à un moment aigu de sa souffrance, de ses doutes. Sa foi est éprouvée. Il se demande où est Dieu. Il ne le voit pas, il ne le ressent pas. Et nous ne connaissons pas la cause précise de sa détresse. Certains ont dit que c'était probablement son péché. Particulièrement chez les pères de l'Église, les commentateurs de la période patristique, pensent que David a péché gravement et qu'en raison de son péché, son assurance est ébranlée, il cherche la face de Dieu, mais il a l'impression que le ciel est fermé pour lui. D'autres ont dit non, mais c'est encore dans le contexte de l'adversité, de ses ennemis, peut-être encore de la fuite d'Absalom, ou devant Saül, et qu'il a l'impression que c'est l'ennemi qui a le dessus, parce qu'il en parle aussi de son ennemi. Jusqu'à quand s'élèvera-t-il contre moi? Or, il ne nous est pas donné, comme dans d'autres psaumes, le contexte spécifique. Mais la cause principale de son chagrin me semble être exprimée au verset 2. Il se sent oublié de Dieu qui lui cache sa face. C'est un sentiment terrible de vivre des épreuves, de vivre la maladie, de vivre des détresses, avec l'impression que Dieu est à nos côtés. C'est une consolation. On a une quiétude, une sérénité dans la souffrance. Mais traverser les mêmes épreuves avec l'impression que Dieu nous a abandonnés, que Dieu n'est pas présent, que Dieu ne fait pas briller sa face pour nous, qu'on ne sent pas qu'il nous est favorable, mais qu'il nous a oubliés. Il est pas mal occupé, c'est Dieu. Il n'a plus le temps de s'occuper de moi, de mes soucis, il ne me voit pas. C'est un sentiment terrible qui peut amener une profonde dépression. Notez cependant que le psaume et la parole de Dieu dans son ensemble n'affirment pas qu'il en est ainsi, c'est-à-dire que Dieu oublierait ses enfants. L'Écriture ne dit pas que Dieu a tourné le dos, que Dieu l'a oublié, que Dieu lui cache sa face. Mais elle décrit comment David se sent et comment se sentent souvent les enfants de Dieu dans leur détresse. Saint Augustin, dans son commentaire, écrit « Dieu ne détourne pas plus son visage qu'il n'oublie, mais l'Écriture adopte notre langage humain. » Mais ce n'est pas simplement le langage. Je pense que j'aurais aimé ça pouvoir vérifier le texte original. J'avais seulement l'anglais du texte d'Augustin pour comprendre si c'était pas simplement plus que le langage qu'il visait, mais l'expérience humaine qui est rapportée, la perspective de l'homme. Donc, c'est une façon de parler, comme si Dieu a tourné le dos, mais c'est plus qu'une façon de parler, parce que c'est souvent comme ça que les enfants de Dieu se sentent dans ce monde. Il est important de se rappeler à ce point-ci, et à chaque moment dans nos épreuves, ce qui en est véritablement par rapport à Dieu dans nos épreuves. Dieu déclare par la bouche du prophète Ésaïe au chapitre 49, versets 14 et 16, « Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. « Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. » Voilà ce que Dieu dit à son peuple, même s'il se sent oublié. Ce qui nous amène à réfléchir un petit peu sur la nature du secours de Dieu. Il n'est pas forcément comme le secours d'une mère ou d'un père, qui manifeste une présence qu'on ressent, une étreinte, un réconfort. Dieu, on ne le voit pas. Et parfois, on a l'impression de le ressentir parce que peut-être que nos sentiments, nos dispositions sont plus favorables, sont portés à se reposer plus facilement dans sa parole, mais notre perception subjective, notre sentiment de la présence de Dieu ou de l'absence ne change rien à la réalité qui est présent. Et que ce n'est pas une présence ressentie. C'est une présence, la présence de Dieu qui est promise par sa parole. Et Dieu fait la comparaison avec une mère qui a une affection naturelle pour ses enfants, qui ne peut pas les abandonner. Il dit, puis peut-être qu'il y en a sur le lot qui vont abandonner leurs enfants. Mais moi, je suis comme les meilleures mères d'entre vous. Jésus donne une comparaison semblable quand il dit, « Vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Ne pensez pas que vous êtes mieux que Dieu ou meilleur que Dieu. Vous, vous avez le péché et malgré tout, vous êtes capable d'aimer et de veiller sur vos enfants. À combien plus forte raison Dieu? » Alors, on pense ces promesses-là, puis on se dit, « Mais pourtant, mon épreuve ne s'en va pas. Pourtant, je ne sens pas sa présence. » L'Écriture nous présente deux perspectives. La nôtre et celle de Dieu. « Et celle de l'homme est exprimée par David lorsqu'il dit « jusqu'à quand ?» Pour nous, le facteur temps compte. Pour nous, la notion de durée, pour nous, l'expérience temporelle, c'est notre perspective. Mais Dieu n'est pas dans le temps, n'est pas dans la temporalité. Donc, on a d'un côté la perspective de l'homme qui est temporelle, puis on a la perspective de Dieu qui est éternelle. Et quand on entend le mot éternel, on pense tout de suite à quelque chose qui ne finit pas, parce que ça fait partie du concept d'éternité. Mais l'éternité divine, ce n'est pas juste quelque chose qui ne finit pas, c'est quelque chose qui ne commence pas. Puis c'est pas juste quelque chose qui commence pas puis qui finit pas, mais c'est quelque chose où il n'y a pas de séquence de temps entre les deux. C'est la temporalité. Dieu est éternel. Dans le sens que il est depuis toujours, il est pour toujours, et il n'y a pas de changement, de variation en lui, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de progression, il n'y a pas de lendemain. C'est un aujourd'hui éternel. L'apôtre Pierre l'exprime lorsqu'il écrit « Il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. » Dans le contexte où on souffre, dans le contexte de notre perspective temporelle, on dit « Seigneur, jusqu'à quand? Mais pourquoi tu m'as oublié? » Il y a une chose que vous ne devez pas ignorer, que vous devez comprendre. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, ça vaut autant pour le juste que pour le méchant, où Dieu ne tarde pas. En fait, il accorde à notre réalité temporelle, un sursis pour nous permettre de nous repentir. Mais nous devons comprendre, pendant tout ce temps-là, que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour, et qu'il n'est pas en train de négliger comme nous lorsque nous procrastinons, lorsque nous repoussons, lorsque nous remettons l'échéance à plus tard et la date au lendemain, que nous refusons. Et lorsqu'on pense à Dieu puis nos malheurs, on se dit, bien, Dieu ne fait rien. Dieu n'est pas là. Dieu m'oublie. Dieu attend. Dieu est passif. Dieu s'en fiche. Mais Pierre nous rappelle la perspective de Dieu. Dieu est dans l'éternité. Et donc, pour lui, il a déjà répondu. Mais toi, tu ne l'as pas vu encore parce que toi, tu es dans la temporalité. Donc, tu dois croire le secours de Dieu qui t'est réservé à la fin, comme s'il était déjà présent. Parce que pour Dieu, il est déjà présent. Alors, toi, tu ne vis pas dans l'éternité, tu vis dans le temps. Mais lorsque tu penses à Dieu puis que tu questionnes sa moralité et sa fidélité, il y a une chose que tu ne dois pas oublier. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Donc, tu dois considérer ces promesses de présence, d'amour maternel et paternel, en les retransmettant, en les retransposant dans l'ordre divin des choses. Dieu compare, se compare à une mère qui ne peut pas abandonner son nourrisson, se compare à un père qui ne peut pas donner de mauvaises choses à son enfant. Mais ça ne va pas se traduire de la façon concrète comme on le voudrait dans une relation filiale qu'on était habitué à, par notre expérience humaine, mais on transpose ça dans notre relation filiale avec Dieu. Et ce qu'on doit conclure, c'est que toutes ces souffrances-là ne peuvent pas nous séparer de son amour. C'est que Dieu ne tarde pas et que rien de tout cela ne prouve qu'il serait infidèle ou incapable, et que nous devons espérer contre toute espérance. Nous devons demeurer fermes dans notre confiance, dans la fidélité, la bonté de Dieu, malgré tout ce qui nous amène à en douter. Et c'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans la perspective de David, qui, malgré sa perspective humaine, dans sa finitude, d'où le temps est lourd, et il dit « Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Éternel? » Bien, nous pouvons voir au travers de ces questions qu'il n'y a pas juste de la souffrance, il y a de l'espérance. Comme le dit Augustin Crampon. Vous connaissez la Bible Crampon? Il a laissé aussi des petites notes, l'abbé Crampon. Il écrit « L'épreuve a été si longue qu'il est prêt de désespérer tout en espérant encore. » En fait, on voit qu'il y a encore de l'espoir. Parce que sa question n'est pas « si, mais quand? » La question n'est pas que Dieu ne le délivrera pas, mais quand vas-tu me délivrer? Parce que jusqu'à quand implique qu'il y aura une fin, implique que le secours va venir. Pourquoi est-ce que David espère ça? Parce que Dieu lui a promis. Comme il nous l'a promis à nous dans l'Évangile. Alors, il espère contre toute espérance. C'est une expression que Paul emploie pour parler de la foi d'Abraham, espérant contre toute espérance. Il est rendu un centenaire, sa femme était stérile, puis Dieu lui promet qu'il y aura un fils. Espérant contre toute espérance, il a eu foi en Dieu. Il n'y avait pas d'espoir visible, il n'y avait rien à vue humaine autre que la parole de Dieu. Nous devons avoir une foi de même nature, qui ne regarde pas aux circonstances, qui ne laisse pas les tempêtes de la vie dicter ce que notre foi doit croire, mais qui s'appuie sur la parole de Dieu, contre toute espérance. En fait, même si parfois vous avez peut-être l'impression que vous avez une petite foi, que vous n'avez pas la foi d'Abraham, la certitude qu'on va croire jusqu'au bout fait partie de l'irrésistibilité de notre foi. Nous croyons que la foi, c'est nous qui l'exerçons, mais qu'elle est un don de Dieu par le Saint-Esprit. Et que ceux qui ont reçu le don de la foi ne sont pas capables de ne pas croire la parole de Dieu. Ils ne sont pas capables de ne pas croire dans le Christ. Ils ne sont pas capables de cesser d'espérer en Dieu. Ah, ils sont venus de façon irrésistible. On ne croit pas qu'ils ont accepté Jésus par leur propre libre arbitre. Ils ont accepté Jésus parce que le Saint-Esprit les a attirés efficacement et irrésistiblement à lui. Et dans cette foi irrésistible que Dieu nous a donnée, on n'est pas capable d'arrêter de s'attendre à lui. Même quand ça va mal, même quand tu es au fond dans ta détresse, quand tu es rendu à l'hôpital psychiatrique parce que tu délires à cause de ta dépression, tu n'es pas capable de penser ultimement que Dieu t'a abandonné. Tu continues de dire jusqu'à quand et d'espérer qu'il va te secourir. C'est une foi qui est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, quand David dit « jusqu'à quand », il sait qu'il y aura une fin à sa détresse. James Hamilton écrit « Étant donné la promesse du Seigneur de se lever et de sauver les opprimés et les pauvres qui gémissent » au psaume 12, verset 6, « les questions « jusqu'à quand » qui ouvrent le psaume 13 sont une réponse logique. La question « jusqu'à quand » croit que le Seigneur fera ce qu'il a dit. La seule question est de savoir combien de temps le psalmiste devra attendre. Donc, ce n'est pas tant l'expression de la rébellion, de la colère ou de l'impatience contre Dieu, mais plus de la foi et de l'espérance en Dieu. Il faut faire attention quand on pose ces questions et on dit à Dieu, ou on sent comme s'il nous avait oublié, qu'on ne finisse pas par lui imputer des choses qui sont contraires à la vérité. Mais ce qu'on voit ici, ce n'est pas tant que David ne croit plus en Dieu, mais il croit plus que jamais. En fait, l'espérance, c'est précisément ce qui différencie le croyant du non-croyant dans sa souffrance. Tout le monde souffre. Tout le monde vit des deuils. Mais le croyant souffre avec espérance. Le croyant traverse des deuils en s'affligeant, mais pas comme le non-croyant. 1 Thessaloniciens 4, 13 et 14. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Ce n'est pas qu'on ne s'afflige pas, qu'on pleure pas, mais qu'on pleure pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. » Donc, ce qui différencie le croyant du non-croyant, ce n'est pas qu'il y en a un qui souffre puis l'autre ne souffre pas. Notre souffrance est assez similaire, bien qu'il y a des éléments qui la distinguent, parce qu'on souffre en portant la croix, on souffre en devant demeurer fidèle, on souffre parce qu'on vit dans un monde hostile à Dieu, ce que ne connaît pas le méchant dans le monde. Mais on connaît des souffrances de même nature, mais on les vit avec l'espérance. Et c'est ce qui nous distingue. Sans espérance, mangeons et buvons. Demain, nous mourrons. Il n'y a rien de mieux à faire que de se donner du plaisir, de faire bonne chère, de réjouir son cœur, de se donner tout ce dont on a envie, s'il n'y a pas d'espérance. Sans espérance, l'apôtre Paul nous dit, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes en tant que chrétiens parce qu'on souffre plus que les autres. Fait que si on souffre puis il n'y a rien après, ben ça ne vaut pas la peine d'être chrétien. C'est en raison de l'espérance de la résurrection qu'on peut endurer les souffrances, qu'on peut mourir martyr, qu'on peut porter la croix, parce qu'on sait qu'il y a une éternité de joie. Sans espérance, nous n'avons rien qui nous différencie des autres hommes. C'est ce que l'apôtre Jean laisse entendre quand il dit que celui qui a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Donc, voilà pour les souffrances avec lesquelles est mêlée l'espérance de David dans les versets 2 et 3. Mais lorsqu'on souffre avec espérance, qu'est-ce que ça produit? La persévérance. Paul nous montre deux fois dans son épître aux Romains cette logique-là, que la souffrance avec espérance mène à la persévérance. Romains 5, 3, « Bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. » Donc, Paul est en train de dire, autrement dit, que on se glorifie des afflictions parce qu'elles nous sont utiles. C'est comme si tu veux faire du bodybuilding. Puis là, tu vas juste prendre la barre, tu ne mettras pas de poids. Bien, tu vas pomper longtemps, puis il ne se passera rien. Si tu mets des poids, ça va faire mal. Hein? Mais on dit « no pain, no gain », comment on traduit ça en français? Sans effort, pas de résultat. Donc, la souffrance a un but, a un fruit, un résultat qui est utile, qui est bénéfique. Alors, le croyant n'interprète pas sa souffrance comme si elle était une absurdité, comme si elle servait à rien. En fait, elle produit quelque chose pour lui. Elle lui donne des muscles spirituels, la persévérance. Et il répète la même chose dans Romains 8, 24 et 25. Il dit « C'est en espérance que nous sommes sauvés. » On est sauvés, mais sous la forme d'une espérance. Notre salut, on l'a seulement comme un gage. On a gagné le gros lot, mais il nous a été donné juste le prix d'un billet d'autobus pour se rendre là où se trouve notre trésor. Donc, on est sauvé en espérance. L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Alors, persévérer dans quoi exactement? Bien, dans l'ensemble de la foi, de la vie chrétienne. Et comment est-ce qu'on fait ça? Bien, il y a un moyen de grâce en particulier qui caractérise la persévérance chrétienne, c'est la prière. Donc, c'est ce que David fait. Souffrance avec espérance mène à la persévérance dans la prière, versets 4 et 5. Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Dans cette prière de David, il y a plusieurs demandes, mais qu'on peut réduire à deux demandes. La première, c'est qu'il demande à Dieu qu'il change sa perspective. Il est conscient qu'il est en train de désespérer. Il espère, mais il est comme en train tranquillement de désespérer parce qu'il est en train de penser que Dieu l'a abandonné, et ça, c'est s'endormir du sommeil de la mort. Laisse pas ma foi mourir. Laisse pas ma perspective sur toi devenir complètement fausse, que je pense des choses erronées sur toi et que je m'endorme dans le sommeil de la mort et dans le désespoir. Donc, éclaire mes yeux. C'est-à-dire, change ma perception ou ma compréhension et mon interprétation de cette souffrance pour que j'aie un regard de foi, pour que je puisse réfléchir bibliquement. Et pas juste à partir de mes propres syllogismes, de ma logique humaine qui me fait faire des spéculations sur Dieu, mais que je puisse réfléchir bibliquement à ma souffrance. C'est ce que le chrétien doit apprendre dans sa vie. Les chrétiens qui ne réfléchissent pas bibliquement ne parviennent pas à une grande maturité. Ça ne veut pas dire qu'ils perdent leur salut, qu'ils ne sont plus chrétiens, mais ils portent moins de fruits dans l'épreuve. L'épreuve, au lieu de les élever, les écrase. Donc, il faut changer notre perspective. J'ai aimé ce commentaire de Cyril d'Alexandrie, un père de l'Église, qui explique justement comment il faut que quand David dit « éclaire mes yeux », ça veut dire réfléchir bibliquement. La juste perspective des yeux cachés à l'intérieur est de pouvoir voir clairement et finement dans la mesure où cela est accordé. Tout ce qui relève de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, et nous connaissons en partie. Mais celui qui met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres envoie la lumière de la vérité, et ceux qui veulent acquérir une juste connaissance de lui. Il faut donc que nous nous prosternions devant Dieu en disant « Donne la lumière à mes yeux ». Pour que je ne m'endorme pas dans la mort, car s'éloigner de la rectitude des saintes doctrines n'est rien d'autre que de s'endormir dans la mort. Et nous nous éloignons de cette rectitude lorsque nous ne suivons pas les Écritures divinement inspirées. » C'est bon de voir que les pères n'étaient pas en train de dire que c'est la tradition, mais que c'est la parole de Dieu qui nous garde, qui est la vérité, qui, elle seule, est inspirée. Donc, il faut toujours prier pour rester éclairé par la parole. Dans notre vie de prière, on demande à Dieu, « Éclaire-moi par ta parole, qu'elle soit une lampe à mes pieds. Aide-moi à ne pas suivre le conseil des méchants, à ne pas laisser mon propre cœur se laisser convaincre par de faux et de vains raisonnements, à ne pas interpréter ma souffrance d'une mauvaise façon, mais à penser tes pensées après toi, à réfléchir bibliquement. » La deuxième chose qu'il demande dans les versets 4 et 5, il demande à Dieu d'être protégé de l'ennemi. Comme le Seigneur nous l'apprend aussi dans notre Père, on va y venir les enfants dans notre mémorisation de cette prière, C'est la sixième, la dernière des pétitions où on dit dans Matthieu 6,13, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Donc, pour David, bien sûr, ça représentait des fois les ennemis charnels, mais on a vu que derrière ces ennemis charnels, il y a l'ennemi spirituel qui instrumentalise les adversaires de David pour s'attaquer au plan de Dieu en s'attaquant à loin de l'Éternel. Et donc, ultimement, la bataille de David est la même que la nôtre. Ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les principautés, contre la puissance du diable et la puissance du péché. Donc, on doit prier pour que Dieu nous délivre de notre ennemi. Et ce n'est pas seulement pour notre propre bien-être, pour notre confort, mais c'est pour l'honneur de Dieu qu'on demande cela. Et on le sent un peu dans la façon que David formule sa requête quand il écrit, quand il dit « Afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. » Et l'idée, c'est ils vont dire finalement qu'ils étaient plus forts que toi, que tu n'étais pas capable de me délivrer de leurs mains. John Gill note « De peur que mon ennemi ne dise « Je l'ai vaincu », c'est un argument dont Dieu tient compte. Et c'est pour cela qu'il n'abandonne pas son peuple entre les mains de ses ennemis. » Donc, quand on dit à Dieu « Délivre-nous du malin pour ta gloire, c'est pour ton honneur, afin que je ne déshonore pas ton nom en étant la proie du malin, en cédant à ses tentations, mais que je puisse te glorifier en étant secouru par toi. » Donc, voilà les deux demandes ici qui nous sont présentées, qu'il change sa perspective et qu'il le délivre de l'ennemi. Et le résultat, nous l'avons au verset 6. Nous passons de la plainte vers le plaidoyer, du plaidoyer vers la plénitude de la foi, au verset 6. « Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Dans la version de Louis II, il y a seulement le « moi ». Moi, j'ai confiance, mais il n'a pas traduit le vav en hébreu qui peut être traduit comme un « et moi » ou « mais moi ». Et je pense que c'est vraiment dans cette idée adversative. L'adversaire, mes adversaires peuvent penser qu'ils vont l'emporter. Et ils sont déjà en train de se réjouir. Mais moi, j'ai confiance. Je garde la foi. Je ne me laisse pas décourager par leur proclamation hâtive de victoire. Mais moi, j'ai confiance en toi. Que s'est-il passé entre le début et la fin du psaume 13? On commence sur un ton où David questionne Dieu d'une façon dont on n'ose pratiquement pas nous-mêmes dans nos prières aller jusqu'à dire « Dieu, tu m'as abandonné ». Pour terminer en disant, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur et je chante à l'Éternel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a reçu une révélation, une onction spéciale ou rien de spécial? Que David est simplement parvenu à affermir son âme par les moyens de grâce. Je pense que c'est ça. Je pense que David s'est raisonné lui-même. Il s'est secoué, s'est donné 3-4 taloches spirituelles par la prière en disant « Arrête de gémir, ressaisis-toi, crois les promesses de Dieu. C'est le Dieu qui ne ment point, c'est le Dieu qui est fidèle. Aie confiance, peu importe ce que tu vois. On ne marche pas par la vue, mais par la foi. » La foi en quoi? En la parole de Dieu. Et ça nous rappelle donc que nous allons traverser des cycles de tristesse et de joie. Et que lorsqu'on est dans l'abattement, lorsqu'on se sent dans la désolation, l'affliction, la solitude, rappelons-nous qu'il y a eu des moments de joie, qu'ultimement, on ne s'en va pas vers une éternité lugubre, mais joyeuse. Je pense que Dieu va nous garder des moments de grande réjouissance, de bonheur, même ici-bas, même dans un monde où les méchants marchent de toutes parts, même où il y a des combats et qu'on perd parfois des batailles, où il y a de la souffrance, où il y a des doutes. Notre pèlerinage n'est pas qu'une longue marche pénible, souffrante, triste, lugubre. Il y a aussi des moments de joie, d'allégresse, de consolation. Et donc, il faut prendre les moyens de grâce, prendre la prière pour discipliner notre âme à espérer contre toute espérance et à s'affermir dans les promesses de Dieu. Non seulement nous devons garder l'espérance, mais on ne doit pas juste avoir de l'espérance avec la baboune. Nous devons nous réjouir dans l'espérance, comme le fait David ici. On souffre en espérant, mais on est appelé aussi à anticiper la certitude de ce qu'on espère et déjà à s'en réjouir. Romains 12, verset 12 nous dit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » C'est le verset thématique, je pense que je suis sauté par-dessus, il était en début de mon message, j'ai oublié de le citer tantôt, mais ça résume les trois points de notre message de ce matin. Mais pas exactement dans le même ordre, mais toute la thématique est là. Où on se réjouit dans l'espérance, on est patient dans l'affliction et on utilise le moyen de grâce de la prière dans laquelle on persévère. C'est trois impératifs, mais qui sont la clé. Paul écrit aussi aux Philippiens, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous. » Bien-aimé, c'est un commandement. Nous ne pouvons pas juste avancer en endurant. Il faut trouver le moyen de répondre à ce commandement de Dieu qui nous demande de nous réjouir. Oui, il y a des moments de calamité, de tristesse, mais il faut les surmonter par la foi et par l'espérance et faire les changements nécessaires dans notre vie qui nous empêchent parfois de nous réjouir pour apprendre à se réjouir dans le Seigneur. Et Pierre considère que les souffrances, la fournaise de l'épreuve, comme il l'écrit dans 1 Pierre 4, n'est pas un obstacle qui justifie l'absence de la joie du chrétien. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Oui, mais toi, tu ne comprends pas. Si tu vivais ce que moi, je vis. Non. Tu n'as rien de plus extraordinaire que les autres dans tes épreuves. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Il y aura de la joie lorsqu'il va apparaître, mais déjà, par anticipation, nous sommes commandés de nous réjouir. Et donc, pour pouvoir se réjouir ainsi, il faut une foi éclairée par la vérité. Et la vérité de l'Évangile nous est présentée au verset 6, qui permet l'assurance du salut et la réjouissance en espérance. Au verset 6, il dit « J'ai la foi dans ton chesed », le mot hébreu qui est traduit ici par « bonté ». Mais nous avons dit que ce mot parle pas simplement d'une sorte d'un trait de caractère de Dieu, mais nous parle de sa faveur alliantielle. Ça a un peu la même connotation que le mot « grâce » dans le Nouveau Testament. Quand on pense à la grâce, on pense pas juste à une disposition émotionnelle, sentimentale de Dieu, mais à une action que Dieu a faite pour pouvoir nous faire grâce, à sa miséricorde en Jésus-Christ, à son alliance de grâce. Et donc, le mot chesed, cette idée de fidélité alliantielle, bonté de Dieu, et tout ça, la chesed de Dieu, on le retrouve lorsqu'il accomplit l'Évangile. C'est dans l'Évangile que se trouve le don de cette miséricorde. Comment est-ce que David obtient la miséricorde de Dieu? par la foi. J'ai confiance en ton chesed, en ta bonté. Donc, il reçoit la grâce par la foi. Et qu'est-ce que ça produit? L'assurance du salut qui lui donne de la joie, qui lui procure le véritable bonheur. Mon bonheur, ce n'est pas mes bénédictions terrestres, ce n'est pas parce que je suis roi ou parce que j'ai de l'argent ou je suis en santé. C'est rien de tout ça. C'est parce que j'ai la vie éternelle, parce que j'ai la faveur de Dieu, parce que j'ai une espérance, j'ai le pardon de mes péchés. J'ai mentionné en début que les pères de l'Église croyaient que la détresse de David était causée par la conviction de péché. Et ils arrivent au verset 6 en disant, bien, voyez, l'assurance du pardon vient de la foi et non pas des œuvres. Par exemple, Athanase d'Alexandrie écrit, en paraphrasant les paroles de David, « J'ai foi dans le fait que je recevrai le pardon de mes péchés et j'espère en toi, par laquelle tu as assuré le salut de tous les hommes. » J'espère en ta miséricorde, par laquelle tu as assuré le salut de tous les hommes. Et Théorée de Cyr, quant à lui, écrit, « Il est également clair qu'il a prononcé ce psaume après avoir péché. Il ne s'appuie pas sur sa justice, mais sur la miséricorde et dit que c'est en elle qu'il se confie. » Donc, par la grâce de Dieu seul, par la foi seule, il obtient ce pardon et cette assurance et la joie du salut et l'allégresse. Et le mot « salut » en hébreu, c'est le mot « Yeshua ». Ça ne ressemble pas à un prénom qu'on connaît. Le nom de Jésus, notre salut. Et nous sommes appelés par lui, par Yeshua, d'offrir un sacrifice de louange à Dieu en raison de sa miséricorde pour nous. C'est ce que nous dit Hébreux 13, 15. Par lui offrons à Dieu le sacrifice de louange qui lui est dû. Eh bien, c'est ce que David fait. Comment est-ce qu'il exprime son allégresse? Par le chant. Il chante à l'Éternel. Et l'Écriture nous commande de chanter à Dieu à cause de sa bonté, à cause de son salut, à cause de l'espérance que nous avons de la vie éternelle. Nous devons chanter, c'est un commandement. Je ne veux plus voir une bouche fermée qui ne chante pas. Je suis tanné de voir des ados qui regardent les paroles et qui sont gênés parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir l'air stupides en chantant des cantiques. Dieu vous commande de chanter, bâtard! Chantez à sa gloire! Je veux que tout le monde chante après cette prédication. On va tous chanter ce verset 6 parce que Dieu en est digne et parce que Dieu nous commande de le louer. Et peut-être tu dis, oh, mais je suis trop triste, je n'ai pas envie, je suis coincé. Bien, écoute ce que David dit à son âme. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Donc, il prend son âme par la cravate. « Viens ici, mon âme. T'as pas envie de louer Dieu? T'es triste? Ça va mal dans ta vie? Tu files pas trop pour chanter? Tu vas chanter pareil, parce que Dieu est digne. Il est digne de ta louange et il te commande de prononcer la louange de sa gloire. C'est pour ça qu'il t'a racheté. Montre qu'il en est digne. » Faisons comme Paul et Silas, battus, emprisonnés, au milieu de la nuit, qu'est-ce qu'il faisait dans la prison de Philippe? Il priait et il chantait. Il chantait, il aurait dû se plaindre, il aurait dû être en train de gémir, mais non, on les entendait faire monter des louanges vers Dieu. Il n'y a aucune raison valable pour ne pas chanter la gloire de ce Dieu qui nous a fait miséricorde, qui a envoyé son Fils, qui a versé son sang pour des impies comme nous, afin de se faire un peuple qui célèbre sa miséricorde, qui chante les louanges de sa gloire. Que Dieu soit loué. Amen.